Bonjour et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui explore les pistes de réflexion pour être un parent conscient. Je suis Pauline, l'hôte de ce podcast, et un mardi sur deux, j'invite à mon micro des acteurs du changement pour questionner et repenser nos modes de vie, pour nous et les générations futures. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en me laissant des étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, ou encore en partageant sur vos réseaux sociaux. Vous contribuerez ainsi activement à faire connaître Petite Pousse au plus grand nombre, alors merci pour cela. Et maintenant, place à votre épisode. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier. Tout d'abord, car c'est la reprise de Petite Pousse, après 2 mois de pause, et je remercie toutes les personnes qui ont continué d'écouter le podcast pendant ce temps-là. C'est également un format inédit par ici, car il s'agit d'un épisode croisé avec Delphine Desneiges, plus connue aussi sous le pseudo de Didi, du podcast Le Grand Large. Dans Le Grand Large, Delphine accueille à son micro des personnalités inspirantes pour nous éclairer afin de faire à notre tour des choix plus conscients. Le fameux « moins mais mieux », pour la paraphraser. Personnellement, je suis une grande fan de son podcast que je vous invite à découvrir sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour rester dans le thème, je ne peux que vous conseiller son épisode avec la journaliste et autrice Anne Toumieux qui s'intitule « Comment parler écologie à ses enfants ». Avec Delphine, nous avons ce point commun d'être mère de jeunes enfants. C'est ainsi que nous avons voulu échanger sur comment nos maternités ont chamboulé nos consciences écologiques. De la grossesse à la petite enfance, en passant par l'accouchement et le postpartum, découvrez nos histoires, nos parcours différents et nos visions conjointes sur les anciens modèles éducatifs à repenser.
Salut Pauline.
Salut Delphine.
Je suis hyper contente qu'on arrive à faire cet épisode. Les deux Toulonnaises, bon, une d'adoption, j'espère que tu me tolères quand même derrière ce micro.
Non mais je suis Toulonnaise d'adoption aussi. Mais...
C'est pas vrai, mais tu t'es bien gardée de me dire ça.
Bon, 2 mois loin, hein, moi de Marseille, hein, donc ça, va. Ça reste sudiste.
Effectivement, ça reste la team du Sud. Ouais. Alors, on s'est dit toutes les deux que ce serait une bonne idée d'échanger sur nos rapports à la maternité et à l'engagement écologique au sens large.
Yes.
Parce que toi-même, tu sais, puisque nous avons deux petits garçons qui ont quasiment le même âge, que s'engager sur la voie de l'écologie avec un tout petit, ben, écoute, en tout cas pour moi, c'est une sacrée paire de manches. Et clairement, il y a, tu sais, comme les trucs, les mêmes reality ouais. versus expectations.
C'est ça.
Donc là, on est bien là-dedans, quoi.
Ah oui, mais de manière générale, de toute façon, la maternité, le postpartum, c'est attente versus réalité. Tu le vois sur tous les aspects et je crois encore plus l'écologie parce que tu projettes ce que t'aimerais et après, ben, y a ce qu'on peut faire. Et je le vois, moi, avec les invités de Petite Pousse. C'est une question que je pose souvent. Il y en a beaucoup qui me disent qu'au début, c'est un peu challenging. Il y en a qui arrivent, mais il y en a qui rétropédalent carrément.
Mais il y a tellement de charge mentale autour de la maternité. C'est délirant. Donc, c'est sûr que quand tu as quelque chose de pratique qui tombe sous le sens quasiment, enfin, sur le sens non, justement, mais qui vient t'aider, entre guillemets, à te faire gagner du temps. Et puis après, on se confronte aussi à l'autre, et notamment moi, ma mère, tu vois, si je lui parle couche lavable, elle part en cacahuète. Elle me dit, mais moi, j'ai eu les couches jetables pour la dernière de nous quatre. Et elle me dit, mais c'est une régression pour moi d'envisager la couche lavable aujourd'hui. Bref, nous n'allons pas spoiler. Avec Pauline, on a décidé de découper cet épisode en 3. On va aborder la maternité avant, nos attentes. Qu'est-ce qu'on avait projeté éventuellement par rapport à nos enfants et à l'éco-responsabilité. Tu veux peut-être dire la suite ? On avait pensé après.
Après la naissance, justement, bah, nos attentes versus la réalité. Et ensuite, bah, la troisième partie est demain,
ouais.
Par rapport aux adultes de demain qui sont.
Exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pauline, est-ce que tu avais des attentes avant d'avoir un enfant ? Et si oui, lesquelles en matière, évidemment, d'éco-responsabilité ?
Bien sûr. Alors, moi, enceinte, j'ai lu tous les bouquins possibles et imaginables. Je voulais un truc hyper naturel. J'ai eu un accouchement physiologique au final, mais ce n'était pas mon but. Mais voilà, j'imaginais un postpartum... très doux, très avec mes petites infusions de plantes, mon bébé en portage, les couches lavables, l'allaitement. Voilà, on avait déjà trouvé une assistante maternelle avant la naissance.
Ah, génial, j'adore.
Ah oui, non, mais voilà, organisation plus, plus, plus.
Non, mais hein. t'es mon maître Yoda là-dessus, je dois te dire, parce que t'es hyper organisée, je prends note.
Ah ben, j'avais lu Le Mois d'or, j'avais congelé plein de plats, etc. Enfin, voilà, et l'instant maternelle.
Je croyais que t'allais dire, j'ai congelé plein d'ovocytes.
Non. Et j'ai demandé, est-ce que vous prenez les couches lavables? Est-ce que vous prenez le lait maternel? Elle m'avait dit oui, etc. Bon.
Et sur la grossesse, tu avais une certaine sensibilité. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es dit, je vais justement envisager quelque chose de très responsable par rapport à ma grossesse ou pas spécialement?
Bah oui, déjà j'ai acheté, tous les vêtements de grossesse, ça a été que du Vinted. Après, on a beaucoup donné, les vêtements bébés aussi, hein, tout seconde main, la chambre, voilà, à part les matériaux pour faire la chambre, mais sinon tout a été de la récup, de la seconde main ou des marques engagées. Ça, c'était vachement réfléchi en amont. Moi, j'utilisais hyper gaffe aux produits que je mettais sur ma peau. C'est vrai que j'étais déjà sensibilisée à la cosmétique naturelle. Donc là-dessus, je faisais hyper gaffe. Je faisais du yoga, je faisais de la méditation. Je pensais que j'aurais un bébé zen. mais n'étant pas zen moi-même, je n'ai pas eu de bébé zen. Donc au début, c'était un peu tout ça. Voilà, j'étais un peu dans mon cocon. Et ouais. Toi, du coup?
Alors, écoute, sur la grossesse, un peu comme toi, j'ai pas du tout acheté. J'ai acheté, si, deux jeans de grossesse, parce que je trouve que les jeans, c'était compliqué. Et ce qu'on m'avait donné était trop grand, malheureusement. Donc, ça a été un peu difficile. Et je les ai achetés neufs sur une marque spécialisée qui te propose de les réutiliser après. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et je reporte les deux. Donc, voilà, je trouve que c'était intéressant. Sinon, comme toi, beaucoup de seconde main, beaucoup de copines. Ça, c'est l'avantage quand tu tombes enceinte après tout le monde. C'est que du coup, il y a quand même du stock, que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les bébés derrière. Donc, c'était très, très cool. Sur les cosmétiques, comme toi, mais moi, limite, j'ai trouvé ça too much. C'est que j'avais l'impression que j'allais tuer mon bébé ou lui créer une malformation si je mettais un truc avec du perturbateur endocrinien ou je sais pas quoi. Et ça, je trouvais ça assez dur parce que je me suis dit, tu vois, c'est encore une responsabilité que tu portes en tant que mère et en tant que femme. Et j'avais pas envie de rentrer dans ce délire ultra protectionniste, super flippé. Je voulais avoir une grossesse qui soit la plus sereine possible. Bon, spoiler, comme toi, ce n'est pas. Enfin, toi, c'est par rapport à l'enfant calme. Moi, c'était par rapport à la grossesse sereine. C'était pas du tout serein, même si ça s'est hyper bien passé. Mais voilà, en tout cas, clairement, j'ai hyper checké, triple checké tous les cosmétiques, tout ce que je mettais sur particulièrement mon ventre, ma peau, puisque évidemment ça passe après dans le corps. Sur le reste, clairement, j'ai projeté des choses que j'ai réussi à mettre en place. J'ai pas trop lu, contrairement à toi, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement, de la même manière qu'il n'y a pas un influenceur type, qu'il y a plusieurs types d'influence. J'ai l'impression que sur la manière de vivre sa grossesse, c'est pareil. T'as des femmes qui adorent être enceintes, t'as des femmes qui détestent ça, t'en as qui sont malades de A à Z et qui kiffent quand même ça, et vice-versa. Donc en fait, je me suis dit, il y a tellement de configurations possibles, il y a tellement de cas de figure que je ne saurais jamais. Et voilà, moi en plus, j'ai eu du mal à avoir mes enfants, donc tu vois, j'étais plus j'étais beaucoup, pleine de gratitude et j'essayais de profiter un max, même si j'avais toujours en filigrane. Moi, je me disais, tant qu'il n'est pas né, je ne sais pas. Donc, on verra, on avance. Enfin, tu vois, je l'ai annoncé hyper tard, moi, sur les réseaux. Je ne sais pas toi, mais je l'ai annoncé en septembre et j'ai accouché début novembre. Donc,
ah oui,
très, très tard. Ouais.
Non, moi, ça se voyait, je ne pouvais pas le cacher, ça se voyait. Ouais. J'ai pris, merci la PMA, j'ai pris beaucoup de poids, donc c'était difficile à cacher. Et c'est pareil, hein, j'ai eu il y a toujours ce spectre de on ne sait jamais ce qui peut se passer toute la grossesse. Je ne sais pas toi, mais moi, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu quelque chose de naturel.
Ouais.
J'ai besoin de se réapproprier dans le sens où tomber enceinte, ça s'est fait avec l'aide de la science. Et je crois que j'avais envie de me réapproprier ça. C'est pour ça que l'allaitement était hyper important pour moi, de retrouver ce côté un peu naturel que j'avais l'impression d'avoir perdu par rapport à ce parcours-là.
Ouais, c'est marrant. Alors moi, du coup, c'est un accouchement programmé. Parce que déjà, je suis une grossesse gériatrique.
Ah oui, c'est vrai.
À partir de 37 ans en France, tu es considérée comme grossesse gériatrique.
C'est sympa.
C'est très sympa, on adore. D'ailleurs, j'avais dit à mon gynéco, mais j'accouche en EHPAD, du coup, ça se passe comment? Parce que tu vois le délire. Et en fait, à Necker, il déclenche les accouchements à 39 semaines, parce qu'il y a de plus en plus d'études européennes qui montrent que les deux dernières semaines, en fait, sont pas forcément bénéfique, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que, tu vois, ça induit plus de problèmes pour les mères, notamment celles qui sont plus âgées, avec risque de pré-éclampsie, etc., plutôt que de déclencher. J'étais super contre ça. Alors, je ne sais pas si, comme toi, j'avais réussi à faire le lien entre le parcours très médicalisé pour avoir un enfant et le fait de vouloir quelque chose, justement, de plus naturel, de plus spontané, entre guillemets. Moi, ça me posait vraiment problème de me dire... je voulais que ce soit mon enfant, tu vois. Il décide de venir, ça y est, il est prêt, il vient, tu vois. Plutôt qu'on aille le chercher, je trouvais ça un peu sauvage comme méthode, à coup d'ocytocine et compagnie, tu vois. Et finalement, à force d'en discuter avec l'obstétricien qui me suivait, bon, alors pour le coup, c'est pas lui qui était très dithyrambique, hein, parce que c'était le chef de service de Necker, donc autant dire que le gars, il a pas le time, mais il sait ce qu'il fait, il en est convaincu et il a pas forcément le temps, peut-être même ni l'envie, tu vois, d'expliquer à quelqu'un qui serait pas convaincu. Mais heureusement, j'avais une super sage-femme. Dieu soit loué, et j'en ai parlé vachement avec elle et avec d'autres copines qui étaient passées par le déclenchement, etc. Et finalement, de toute façon, c'était un peu pour mon propre bien, ma santé mentale, hein. C'était soit je l'acceptais, soit je changeais d'hôpital. Donc finalement, ça s'est hyper bien passé, tu vois. Donc j'ai pas regretté, tu vois, on disait les attentes et tout. Alors, c'est sûr que j'ai pas trop lu, tu vois, sur les conséquences d'un déclenchement, parce qu'il y en a plein qui te disent que quand ils sont shootés à l'ocytocine, ils naissent un peu moins vifs, un peu moins... Bon, écoute, tu vois, je me suis dit, je fais confiance. Necker, c'est un des plus grands hôpitaux de Paris. Donc, je me suis dit, écoute, il y a un moment, tu es obligé de faire confiance, je pense. Sinon, tu n'avances plus. Et voilà, encore une fois, il eût fallu que je trouve une autre maternité, etc. Je rappelle que j'ai accouché en novembre 2020. J'étais en plein confinement numéro X. Donc, tu vois, c'était aussi un cadre un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Mais écoute, je ne le regrette pas. Qu'est-ce que, idéalement, Pauline, tu voulais faire pour ton bébé? Alors, pour la naissance, tu disais accouchement physiologique. Tu l'as allaité, du coup?
Je l'ai allaité. Alors, la naissance, accouchement physiologique, c'est que j'ai eu une espèce de révélation le dernier mois de grossesse.
Ah ouais.
Parce que moi, au début, c'était... En fait, on parlait d'attente, de projection. Moi, j'avais des attentes pour l'après, quand il serait là, en fait, après, pendant la grossesse. Moi, j'ai essayé de faire ça le plus naturellement possible, mais je n'ai pas aimé être enceinte, je n'ai vraiment pas aimé cette période. Moi, j'avais hâte que ça se termine. Je n'ai pas fait de projet de naissance.
Ah ouais. Moi, j'avais fait une petite feuille, un peu courte, tu vois, parce que je m'étais dit, oh, les pauvres, si elles ont un A4 recto verso à lire, elles vont péter un câble. Mais j'avais donné 3-4 trucs. Ouais.
Ah non, moi, je suis arrivée en mode touriste. Mais moi, en fait, il est arrivé 3 semaines avant. C'est lui qui a dit « Coucou, je veux sortir. »
Je suis là.
Et moi, juste avant, j'ai une amie qui m'avait prêté « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» Et j'ai lu ce bouquin et je me suis dit, en fait, mon corps est capable. Et en fait, quand je suis arrivée à la maternité, j'ai dit... elles m'ont demandé si j'ai un projet de naissance. J'ai dit non, qu'il aille bien, que j'aille bien, point. Qu'ils sortent, bien sûr.
Bien sûr.
Et je dis, mais après... Idéalement, si je le gère, j'aimerais essayer physiologiquement. Il s'est trouvé que je gérais bien et qu'il est arrivé en 5 heures. Donc, en fait, j'ai même pas eu le temps de... Et que à la clinique, ils m'ont mis dans l'eau. Enfin, voilà, tout s'est fait hyper cool.
Ah ouais,
cool.
Dans l'eau.
Donc,
et tout. Mais du coup, tu avais choisi une maternité
Pas du tout. J'étais à la clinique où j'étais suivie, en fait. Et je savais qu'ils avaient une salle... Alors, c'était pas du tout une salle nature. Hein. C'était une salle, on va dire, de pré-travail. Normalement, on te dit, quand tu as rompu la poche des os, tu ne vas pas dans l'eau. Mais moi, elle m'a dit, si vous voulez, je peux vous mettre dans l'eau. Et du coup, j'avais dit oui. Et ça dilate beaucoup plus vite dans l'eau.
Mais ah ouais,
beaucoup,
d'accord.
Beaucoup, beaucoup plus vite. Tu sens moins. Mais alors, d'un coup, c'est très animal comme truc. Donc, et après la naissance, oui, moi, l'été, c'était mon fer de lance. J'avais lu les bouquins, j'avais mes coquillages, j'avais mes crèmes, j'avais tout ce qu'il fallait. Et ça s'est super bien passé dès le début. Pour la naissance, en fait, les couches lavables, j'en avais pas pris parce que mon chéri m'avait dit « si tu les fais, c'est toute seule ». Donc, du coup,
ça donne le ton.
J'ai fait non. Mais j'avais des couches sans lotion, sans colorant, sans machin. J'en avais tout ce qu'il fallait. Tout de suite, j'ai un peu la meuf chiante alternative, quoi, tu vois. C'était « non, c'est cette vitamine est là. Non, 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 Pierre, tu ne la prends pas ». Pour le bain, j'avais le pain de savon naturel, machin. Non, on ne prend pas leur gel douche à eux. Voilà pour la naissance. Ouais. Ça, c'était passé avant le retour à la maison.
Et toi, du sujet. Bah, la naissance, hyper cool, malgré le déclenchement. Ouais. Moi, j'ai demandé la péridurale assez vite. En gros, ils t'injectent de l'ocytocine pour déclencher. C'est une hormone qui permet de commencer le travail, de déclencher les contractions. Et tout le monde te dit que ça peut être assez douloureux comme contraction, plus douloureux que des contractions naturelles, parce que ça monte beaucoup plus vite dans les tours. Donc ça, je le savais. Et en gros, l'anesthésiste me dit, la sage-femme me dit, est-ce que vous voulez attendre un petit peu pour éprouver quelques contractions ou est-ce que je vous mets tout de suite la péridurale? C'est exactement ça. Je lui ai dit non, en fait, ça ne m'intéresse pas, merci. Et tu vois, je l'ai fait pour ma fille, pour le coup, parce que comme je savais que ce serait la dernière, j'avais envie aussi voilà, d'écouter un peu plus mon corps, de voir un peu. Et comme le premier accouchement s'était tellement bien passé, moi, j'ai été déclenchée à 8h du mat. À 17h, il était là, 17h44.
Ouais, cool.
Super cool. J'ai tout senti sans avoir mal. J'ai eu une super équipe, enfin vraiment rien à dire, tu vois. Ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, ma mère dit toujours, tu vois, elle a eu 4 enfants, elle dit toujours qu'elle préfère accoucher que d'aller chez le dentiste. Et on dit toujours qu'on accouche comme sa mère. Donc moi, je me suis accrochée à mort à cette idée en mode, je vais être comme elle. Moi non plus, j'aime pas le dentiste, c'est sûr, je vais adorer accoucher. Mais en tout cas, mon premier accouchement s'est super bien passé, à tel point que ça m'a un peu encouragée, même si j'étais quand même déclenchée pour ma fille, à essayer d'écouter un peu plus mon corps. Donc, j'ai été plus loin dans le travail, tu vois, sans avoir la péridurale. Et franchement, j'ai douillé et je me suis dit, ouais, non, là, en fait, je vais la prendre, quoi. J'ai tenu, je crois que j'ai tenu jusqu'à une ouverture de col à 4, ce qui n'est pas énorme, tu vois. Mais franchement, j'ai vu ce que c'était, j'ai compris, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Tu sais, au début, quand t'hésites, bah, en fait, les contractions, t'hésites pas. Quand c'est des contractions, tu sais que c'est des contractions. Donc voilà. Mais ça s'est bien passé. Enfin, tu vois, moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai trouvé que même si je m'inquiétais beaucoup sur tout et que j'avais quand même hâte de les tenir dans mes bras, j'ai kiffé cet état de ouf. J'ai eu des super grossesses. J'ai pas pris beaucoup de poids. Enfin, j'étais vraiment bien dans mon corps, tu vois. C'était un moment vraiment chouette. Les accouchements sont hyper bien passés. Un peu moins bien pour ma fille. J'ai eu une révision utérine, mais bon, tu vois, c'est oublié, quoi. Enfin, voilà. Et sur l'allaitement, au départ, avant d'être enceinte, je m'étais dit non, j'ai pas envie, parce que pour moi, les seins, c'est assez érotique, finalement. Oui. Donc, j'avais un peu de mal avec ça. Et puis, j'avais envie qu'on me foute la paix, à mon corps après la PMA. Pour le coup, ça, j'avais fait la liaison. Et je m'étais dit, je veux qu'on me foute la paix, en fait. Juste arrêter de me toucher. Juste, je veux être moi, avec moi-même, seule. Quand j'ai été enceinte, je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Déjà parce que t'as quand même un gros lobbying pro-allaitement, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais du coup c'est hyper culpabilisant quand tu ne veux pas allaiter parce que t'as l'impression que tu vas donner de la merde à ton enfant et que le meilleur qu'il puisse avoir c'est clairement l'allaitement, il n'y a pas photo, etc. Donc tu vois, je me suis dit bon, est-ce que j'aimerais pas quand même l'envisager? Donc jusqu'au dernier moment, tu vois, la sage-femme, elle m'a préparée aux deux en me disant, bah, laissez-vous. En fait, elle était hyper cool. Et Anne-Sophie, si tu nous écoutes, elle me disait, pourquoi tu veux choisir? C'est pas grave, en fait. Tu décideras plus tard. Il n'y a aucune obligation. Tant que tu as le minimum de socle de connaissances sur les deux, comme ça, tu n'es pas prise au dépourvu. Et puis, tu feras ton choix après, quoi. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Mon fils, je l'ai allaité 3 semaines. Ça a été hyper compliqué. J'y arrivais pas. Il tétait mal. Il tétait pas. Il n'y avait pas assez de lait. C'était douloureux. Enfin, c'était hyper compliqué. J'ai été voir une conseillère en lactation qui m'a vachement aidée. Mais pour le coup, on est rentré dans un délire où il fallait que je me tire le lait, genre 10 fois par jour.
Pour simuler,
À l'enfer, quoi. Ouais. Et ça, j'ai fait une journée et je lui ai envoyé un SMS. Je lui ai dit, en fait, je crois que je vais laisser tomber. Donc voilà, elle a été trop cool, elle m'a rappelé, elle m'a dit venez me voir. Donc là, on a dit ok, on essaye un allaitement mixte. Et en fait, j'y arrivais pas sans tire-lait. Enfin bref, donc j'ai laissé tomber parce que c'était trop compliqué. J'ai voulu redonner une chance à l'allaitement pour ma fille en me disant quand même, tu vois, j'essaye de pas trop me faire influencer par les lobbies de part et d'autre, mais tu vois, je me disais a priori, c'est quand même quelque chose, c'est une piste que j'ai envie d'explorer, donc ou de réexplorer. Et alors elle, première tétée géniale, je me suis dit oh mais trop bien, ça va se passer hyper bien et tout. Et alors dès la deuxième, cauchemar et tout. Et donc là j'ai tenu 3 jours et j'ai dit non mais c'est bon, quoi. Et j'étais déjà contente de leur filer la première tétée, tu vois, l'un comme l'autre. Je me suis dit bon, au moins ça ils l'ont eu, il paraît que c'est bien, donc
un contact,
ça te fait un premier contact. Et puis c'est pareil, tu vois, il y a quand même sur le coup du colostrum, c'est quand même prouvé que tu leur files quand même pas mal de choses intéressantes pour eux, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Et la question que je me posais aussi, c'est est-ce que toi, tu t'es questionnée sur le fait d'avoir des enfants ? On dit souvent que dans une planète qui part à volo, avec un climat qui se dérègle, c'est une hérésie. Donc, est-ce que toi, tu t'étais questionnée là-dessus avant de vouloir un enfant ?
Surtout que quand tu fais un parcours PMA, tu ne tombes pas enceinte par miracle.
Non.
Donc, en fait, tu as le temps de te questionner là-dessus, même de te remettre en question parce qu'il y a toujours des bien-pensants qui vont te dire « c'est dans la tête ».
Bien sûr. Arrête d'y penser.
Voilà.
Ouais, bien sûr.
Voilà. En fait, déjà, il faut pas, enfin, arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Non, c'est une fausse bonne idée. Enfin, il y a beaucoup de, y a des études qui le montrent. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit un jour, s'il y avait seulement les gens égoïstes qui faisaient des enfants, on serait pas sortis de l'auberge. C'est bien aussi que des gens conscients en face, en fait. Donc, oui, par rapport à tout ça, je me la suis posée la question, mais après, je me suis dit que. Déjà, il y a quand même cette envie viscérale qui est forte. Après, il y a un peu un coup d'œillère. Des fois, quand je vois les chiffres sur ce que ça va être en 2050, je fais un peu l'autruche. Forcément, la question se pose pour un deuxième ou pas. Mais oui, tu peux pas. Je pense que quand tu es un peu éveillée à tout ça, oui, je pense que c'est normal que tu te la poses. Enfin, toi, tu te l'es posée.
Pas forcément en termes... Enfin, si, bien sûr que je me suis demandé dans quelle mesure ça polluait, clairement, de manière très prosaïque. Mais c'est surtout dans quel monde ils vont évoluer, moi, qui me touche, parce que 2050, même je pense qu'on peut parler de 2030 déjà.
Oui.
Donc même d'aujourd'hui, en vrai, si tu regardes bien les inondations, canicules, les canicules, etc., incendies. Les incendies. On va arrêter l'énumération parce qu'on va on n'est pas là pour plomber l'ambiance, mais ouais très clairement, en fait, en plus moi je suis vieille, j'ai 45 ans aujourd'hui, tu vois, mon fils il a 3 ans, ma fille elle a 20 mois, donc je serai pas éternelle, encore moins aucun parent ne l'est, mais moi de fait, même si tout va bien, que pour moi tout est ok, pour mon mari aussi, de fait, ils vont pas m'avoir très longtemps, tu vois, mes enfants par rapport à d'autres parents. Ma mère qui m'a eu à 27 ans, par exemple. Ouais. Tu vois. Et donc, tu te dis, qu'est-ce que je leur lègue, en fait ? Comment ils vont pouvoir évoluer sur une planète où, a priori, ça ne va pas s'améliorer et où, aujourd'hui, si on ne change pas radicalement de bord, on va un peu dans le mur, quoi. Donc, c'est sûr que je me suis clairement posé la question. Après, comme toi, le truc, c'est que c'est vraiment viscéral. Je ne suis pas sûre que ce soit égoïste, parce que j'aime bien ce que dit ton ami, c'est assez vrai. Et au-delà de ça... c'est aussi les adultes de demain, tu vois, et c'est aussi des futurs adultes qui vont pouvoir peut-être amener des solutions, ne serait-ce qu'une conscience plus marquée, qui vont peut-être avoir plus de poids dans les prises de décision, etc. Donc, ça, en tout cas, ça n'a pas été un frein de mon côté.
Oui, c'est ça. C'est Emmanuel Pont, là, dans son livre, justement, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» qui dit qu'un enfant, c'est pas qu'une... Alors oui, un humain pollue, mais c'est pas qu'une bouche à nourrir, c'est pas qu'une source de pollution. C'est potentiellement quelqu'un qui est un adulte de demain, qui sera peut-être militant, qui sera peut-être ingénieur, qui va peut-être agir dans le futur. Et comme tu dis, je crois qu'il y a un peu cette ouverture d'esprit. Tu vois, typiquement, on sait qu'il va y avoir des exilés climatiques. Et je pense que par l'apprentissage du partage et de la solidarité, on peut aussi, nous, les préparer à ça, en fait. Enfin, je pense qu'ils ne seront jamais prêts parce que je ne pense pas qu'on peut imaginer ce que ce sera vraiment.
Ouais, c'est
demain.
Comme être parent, tu ne peux pas imaginer avant
voilà.
d'être parent.
Mais en leur transmettant, en leur montrant, sans en parler après, je pense qu'on peut les aider, les armer, même si je n'aime pas le mot armer, mais les préparer à agir pour plus tard, quoi.
Ouais, c'est clair. On donnera les vraies références du livre, parce que
ouais.
Moi, je ne l'ai pas lu et clairement, j'ai envie de le lire maintenant.
On les mettra en légende.
On passe au chapitre 2.
Oui, nos attentes versus la réalité. Je pense que ça mériterait un jingle.
Ouais, c'est clair.
Et
ouais. Avant, j'avais des attentes, maintenant, je suis parent.
C'est ça. Et du coup, les attentes, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place ? Qu'est-ce que tu avais prévu ?
Qu'est-ce que j'avais prévu ? En fait, je crois que tu l'auras compris, la personne organisée autour de ce micro, ce n'est pas moi, c'est toi. Donc, non, en fait, moi, j'avais prévu déjà toute la partie habillement, c'était trop bien parce que, encore une fois, quand tu es enceinte après tout le monde, tu as tout le monde qui te file plein de trucs et ça, c'est génial. Parce que bien sûr que je me suis fait kiffer et que j'ai acheté quelques pièces neuves. Mais tu vois, globalement, 80% voire 90% du trousseau de l'enfant, c'était clairement de la seconde main. Et ça, c'est une petite satisfaction à part entière, tu vois. Parce que tu te dis, en plus, c'est des pièces nickel, hyper jolies. les enfants, jusqu'à 6 mois, ils salissent pas leurs affaires. Franchement, les body tons sont nickel, les petites mailles et tout. Enfin, c'est un bonheur total. Donc ça, je m'y suis tenue et c'était vraiment cool et ça m'a plu. Sur l'allaitement, j'ai vraiment essayé. Donc tu vois, je n'ai pas de regrets par rapport à ça parce que je me dis, bon, bah voilà, c'est pas comme si j'avais pas essayé, j'allais dire ça. Parce que c'est un peu dur parce que tu as des gens qui veulent pas essayer, ils sont au clair avec ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais pas au clair avec ça, je voulais essayer, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Bien sûr que j'aurais toujours un petit pincement au cœur par rapport à ça parce que idéalement j'aurais aimé allaiter, mais voilà, j'ai pas le regret de ne pas avoir essayé, donc ça c'est très cool. Et après, les attentes, en fait, moi je m'étais projetée sur rien parce que je me disais de toute façon c'est tellement, ça bouleverse tellement une vie qu'il faut, pour moi je le sentais comme accueillir, tu vois, cette nouveauté entre guillemets. Et essayer de composer avec du mieux que tu peux, tu vois. Donc, typiquement, je n'ai pas donné de tétine tout de suite parce que dans ma famille, on m'a toujours dit « Ah, mais la tétine, ça ne sert à rien, et puis c'est moche, et puis ci, et puis ça, et puis ça gêne l'addiction après quand il commence à parler, ce n'est pas bien pour l'implantation des dents, blablabla. » Mais tu vois, après, je me suis dit « Ok, si je peux m'en passer, je m'en passerai. » Sauf que tétine, en anglais, ça se dit « pacifier », et je trouve que c'est hyper bien dit, ça induit beaucoup ce que c'est. Puisque moi, je m'étais dit, bah attends, si mon fils, il a besoin d'une tétine, si ça le calme, si ça l'apaise, s'il a besoin de ça pour s'endormir paisiblement, etc., bah attends, je m'en fous, tu vois, franchement, aucun problème. Bon, il se trouve qu'on a essayé un moment parce qu'il avait effectivement un peu de mal à s'endormir. Il n'en a jamais voulu. Je peux te dire que pourtant, on l'a bien poussé la tétine dans la bouche, on a bien insisté. Mais voilà, donc ouais, ça, j'ai plutôt réussi à faire ce qu'on avait prévu. Sur quoi d'autre? Alors là, on parle du tout petit, tu vois, il y a aussi... nos fils, ils ont 3 ans maintenant, ouais. Donc ces attentes aussi, elles évoluent. C'est-à-dire que moi, mon rôle de parent, je le vois comme le rôle d'un guide qui est là pour encadrer et pour aider. Plus, j'aime pas ce terme d'éduquer, parce que je le trouve fondamentalement castrateur. En tout cas, on a le petit coucou
du chien.
Du chien de Pauline. Pour moi, éducation égale castration, donc j'aime pas du tout ce mot. Et je trouve que guide, c'est plus...
accompagnement.
Exactement. Et je prends toute la mesure de ça, tu vois, parce que évidemment, mon fils, j'ai envie de lui dire oui à tout, bien sûr, parce que je suis complètement faible. Mais tu vois, je le vois bien, à un moment, c'est important qu'ils se construisent aussi dans l'opposition, dans le refus. C'est important qu'ils éprouvent aussi le sentiment de frustration. Sinon, t'en fais des adultes qui partent complètement en sucette, ils sont incapables de gérer les situations bloquantes. Et donc ça, tu vois, c'est difficile, mais je m'y tiens assez bien, je trouve. Je suis assez contente de me dire que j'abdique pas sur ce côté guide et que même s'il y a des choses qui sont moins sympas que de céder au énième gâteau, tu vois, je trouve ça cool. Il y a t'es alignée toi aussi par rapport à la vision que t'avais de l'éducation ou...
Pas encore, parce que moi je sais que j'ai tendance à m'énerver assez,
ouais, mais moi aussi,
assez vite.
Mais ça, tu passes à la question d'après, sur quoi tu as abdiqué? Parce que moi aussi, je crie beaucoup.
Après, globalement, au niveau de l'alimentation, j'étais OK avec ça, que mon fils ne serait pas végétarien, qu'il choisirait plus tard, mais que je lui proposerais de tout. Pour tout ce qui est cirque et zoo, pour l'instant, j'ai tenu.
Moi aussi.
Parce que pour l'instant, pour moi, c'est no way.
Et les écrans?
Non, j'ai pas tenu les écrans.
Ouais, mais je juge pas. Enfin, moi, j'ai tenu parce que je voulais tenir. Et au-delà de ça, une fois, je lui ai montré... Enfin, on commençait à lui montrer... Il adore le train. Je prends beaucoup le train parce que je fais encore beaucoup d'allers-retours à Paris. Et donc, souvent, quand j'étais à la gare, je prenais des photos de TGV ou de vidéos, tu vois, du train qui rentre en gare, qui part, etc. Et donc, un jour, j'avais filmé. Ça a duré 1000 ans. D'ailleurs, c'était à Toulon. C'était un départ de TGV. Donc, le temps qu'il arrive à quai, qu'il reparte, etc. Donc, ça a duré un petit moment. Et donc, il l'a regardé une fois, deux fois, 15 fois, 20 fois. Et quand j'ai dit stop, en fait, ça a été une crise, mais apocalyptique. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, mon petit, là, c'est mort, quoi. T'auras pas d'écran, parce que je vois l'effet que ça te fait sur une pauvre vidéo de 2 minutes. Et il était déjà assez âgé, hein. Je pense que c'était déjà à Toulon, donc il devait avoir 2 ans et demi bien tassé, tu vois. Et quand j'ai vu l'effet que ça lui faisait, je me suis dit, oh là là, non, alors ça, on va pas se rajouter ça en difficulté à gérer, donc no way, voilà. Mais je pense qu'on diabolise beaucoup les écrans et qu'en réalité, c'est comme tout, c'est une question d'équilibre et de dosage, tu vois. C'est sûr que si tu laisses ton enfant 8 heures devant un écran, mais même 2 heures devant un écran sur les âges des nôtres, c'est un sujet, clairement. Si tu le laisses même une demi-heure devant un truc qui n'est pas adapté, c'est un sujet clairement. Après, on diabolise beaucoup et en réalité, quand tu dis, voilà, c'est pour ça que je te dis, quand tu dis j'ai lâché là-dessus, tu vois, j'imagine bien que tu laisses pas ton fils 8 heures devant la télé, quoi.
Non, j'ai lâché la première fois, je crois qu'il avait 2 ans, lors d'un trajet en voiture qui était hyper long, qui a duré des heures et qui pleurait. Et au bout d'un moment, j'ai mis un espèce de clip avec des lapins qui chantent en dessin animé. Et c'est vrai que c'est impressionnant, c'est du on-off. Hein. Tout de suite, ça et ils sont hypnotisés. Donc voilà, le temps de toi redescendre plutôt que lui gueuler dessus, c'est vrai que voilà. Après, là, il a 3 ans, il a le droit à 3 épisodes de Pat Patrouille le samedi matin et le dimanche matin. Donc il nous les gratte tous les matins, mais on lui explique que non, il y a la semaine et il y a le week-end. T'as beau prévenir au deuxième épisode, parce qu'il dure 10 minutes les épisodes, lui dire bon, c'est le dernier. Alors, il n'y a pas de crise au bout du troisième, mais tu sens que...
Oh bah ça, c'est comme le manège. Hein. Ouais, t'as, t'as beau dire, déjà, tu fais 3 tours. Bon, moi, je suis faible, ils en fait 5. Donc, j'ai crédibilité au top. Mais t'as beau annoncer, attention, c'est le dernier. Non, ouais. Mais laisse tomber, donc c'est pareil. Hein.
Ou alors, tu prends pas de liquide et t'es obligé de faire une carte et d'acheter 5 tickets.
Oui, c'est ça. Et là, c'est mort.
Voilà. De manège, on connaît.
On connaît les astuces des parents. Oui. Au bout du Rolls.
Il y a autre chose sur lesquelles t'as abdiqué?
Ah ouais, les lingettes. Bah, alors, je ne les jette pas dans les toilettes, évidemment, mm-hmm. parce que je ne veux pas polluer les nappes phréatiques et les cours d'eau, etc. Mais même dans une poubelle, ce n'est pas ouf. C'est du papier qui n'est pas recyclé. Donc, c'est quand même un déchet supplémentaire. D'ailleurs, tu vois, je travaille avec une marque de puériculture hyper intéressante qui s'engage beaucoup sur la voie de l'écologie et qui disait, bah, nous, clairement,
ils ont arrêté les lingettes.
Ils arrêtent les lingettes à l'horizon 2025. Et c'est ouf parce que c'est un de leurs produits phares qui se vend le mieux, mais ils ont dit non, ça pollue trop, on arrête. Donc, même si tu ne les aides pas dans les toilettes, ça pollue. C'est quand même quelque chose qu'effectivement, tu peux remplacer par un coton lavable, hein, très clairement. Sauf qu'au quotidien, je fais déjà tourner tellement de machines. Et je fais tourner tellement de machines et il y a tellement de charges mentales autour de la maternité et de la parentalité, pour le coup. Tu vois, moi, j'ai un mec qui fait clairement sa part et plus que sa part. Hein, je pense qu'en termes de tâches ménagères, c'est lui qui en fait plus que moi. Donc, je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Mais malgré tout, tu vois, entre les courses, préparer les repas, gérer l'intendance du quotidien, gérer effectivement les vêtements, parce que les vêtements, il y a le lavage, mais il y a aussi
le détachage.
Et puis après, il y a le remplaçage d'une taille par une autre. Moi, je fais mes piles, j'ai 4 piles. J'ai une pile, je donne à mon neveu. J'ai une pile, je donne tout court. J'ai une pile, je vends à un endroit X. Et une pile, je vends à un endroit Y, en fonction de qui reprend quoi.
Ouais.
Et parfois, j'ai une 5e pile de je vends en direct sur Vinted, si tu veux. Donc, ça me prend un temps de ouf. Et ça, pour le coup, c'est moi à 2000% qui fais ça. Donc, voilà. Et tu vois, rajouter cette logistique de laver le coton, ça m'a semblé insurmontable. Et j'ai essayé un peu, parce que je me suis dit, c'est quand même mieux. Je suis quand même au courant de ce que ça engendre, tu vois, comme déchet, comme pollution d'utiliser des lingettes. J'arrive pas. Et j'arrive toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour le coup, mon mec est encore plus engagé que moi en termes d'écologie et... Tu vois, à table, par exemple, moi, j'essuie mes enfants avec une lingette. Et lui, ça lui fait péter un câble. Il prend une petite serviette.
Ouais.
Et voilà. Mais ouais, mais sauf que la serviette, alors, elle est trempée. Il me la met à sécher au milieu de la cuisine. C'est dégueulasse, ça prend de la place, c'est chiant. Voilà. Ou alors, il me la met à sécher sur le bac à linge sale qui est en bambou, tu vois. Donc, ça mouille le bambou, ça l'abîme, etc. Ça me saoule, en fait. J'aime pas que les trucs traînent. J'aime bien que ce soit net, propre, précis. La lingette, elle part à la poubelle. Fin de l'histoire. Mais j'avoue que j'ai abdiqué là-dessus.
Nous, on a un paquet de lingettes pour l'extérieur.
Quand même.
Parce que, bah, typiquement, tu passes la journée dehors, tu vas le changer. Bon, déjà, si tu trouves un chiotte avec un change bébé, c'est bien. Bah, alors, oui, tu peux prendre du papier de toilette avec de l'eau, mais bon, bah, t'as pas la lotion, t'as pas machin. Donc, le petit paquet de lingettes pour le changer en extérieur, c'est hyper pratique. Après, nous, on a un gant qui sèche, du coup, sur le...
sur le plan de travail.
Sur le plan de travail, mais voilà, le gant est blanc. Je le passe au percarbonate hyper régulièrement parce que le chocolat, la sauce tomate, le machin... moi, c'est pas un truc... Mais tu vois, on sur abdiqué. Moi, j'ai abdiqué sur le style de mon fils.
Ah ouais ?
Ah, mon fils, la semaine est habillé... Bah, en fait, il faut voir dans quel état il revient de la crèche. Donc, en fait, j'ai capitulé. Il n'a que des joggings. Au moins, ça ne freine pas la mobilité. Il n'a que des trucs pas très jolis. Mais j'ai renoncé à l'habiller en blanc, alors que j'adorais l'habiller en blanc. Mais j'ai dit... Hier, tu vois, je lui ai fait une commande en taille... Enfin, la nouvelle taille. Et il y avait un truc trop mignon. J'ai dit, ne le prends pas parce que tu vas stresser à chaque fois qu'il va le mettre et qu'il va vouloir manger un truc ou qu'il va vouloir jouer dehors parce que, bah, il se roule par terre. Soit tu vas passer ta vie à le détacher. Donc, en fait, ne l'achète pas.
J'ai un peu abdiqué là-dessus aussi, mais moins. C'est-à-dire que, comme toi, team jogging la semaine parce que l'école... Laisse tomber. Ma fille, c'est pareil. Hein. La crèche, t'as pas envie de lui mettre des trucs mignons. Et puis, au-delà de ça, souvent, moi, j'aime bien les petites blouses avec les petits boutons de nacre. Donc, déjà, mon mec pète un câble parce qu'avec ses grosses patounes, si tu veux, le petit bouton de nacre taille 18 mois, ça le rend ouf. Et puis, c'est pas un cadeau pour les auxiliaires de puériculture. Tu vois, clairement, ma fille, j'ai tendance à privilégier des bodys en une pièce avec une encolure américaine. Comme ça, ça passe au-dessus de la tête. Des suites, des trucs faciles à manipuler pour les filles qui s'occupent d'elles au quotidien. Après, t'as quand même moyen d'abdiquer sans trop abdiquer. C'est-à-dire que moi, je suis team jogging, mais par contre, je vais lui mettre... j'adore le bleu marine, tu vois. Donc, bon, ça reste une coupe jogging, certes, en jersey de coton. Mais voilà, je me dis, c'est bleu marine et je peux mettre une petite marinière avec. Ouais. C'est mignon, c'est sympa. Ça se détache facilement et c'est pas blanc, tu vois. Et pour le coup, bon, c'est sûr que je préférais lui mettre un petit pantalon de velours côtelé ou un petit chino, tu vois. Je trouve ça plus mignon. Mais bon, quand tu regardes pas de trop près, tu vois pas trop que c'est un jogging et ça passe, quoi. Mais non, moi, j'ai pas encore craqué, tu sais, sur les suites à message.
Ah non, ça, c'est mort.
Ou les trucs pas de patrouille.
Ah non, c'est mort, ça. C'est, voilà.
Donc, enfin, c'est mort, mais tu sais, t'es au courant qu'apparemment, à partir d'un moment, ils décrètent que c'est OK et t'as plus ton mot à dire, quoi. Ah. Et ça vient vite, apparemment, d'après les copines. Donc je te préviens.
Non, nous, le seul truc qu'il a, c'est un pyjama Mickey.
Mais voilà, en pyjama et en chaussettes et en slip, voilà, à la limite,
je tolère.
Fiche,
oui, voilà, c'est, je tolère, mais là, pour l'instant, on m'a filé, hein, je les ai redonnés.
Pareil. Si, et moi, il y a encore un truc sur lequel j'ai abdiqué, c'est les compotes en gourde. Parce que au départ, je les prenais que pour le déplacement, les déplacements. Parce que c'est effectivement facile quand tu es en voiture, en transport, à l'extérieur, à la plage, etc., de prendre le petit goûter qui va bien dans ta gourde de compote. Finalement, je les utilise au quotidien et plusieurs fois. Alors bon, à l'école, on est obligé de leur en fournir une, donc voilà. D'accord. Mais tu vois, même à la maison, j'avais acheté des gros pots en verre de la compote, voire je fais ma compote moi-même. Mais ils n'en veulent pas. En fait, ils adorent le geste du truc. Donc. Et donc, j'ai acheté les à remplir. Et en fait, je trouve ça crade. Je trouve que c'est hyper difficile à nettoyer. Il reste toujours des résidus de matière.
Ouais.
J'ai pas trouvé, en tout cas, celles que j'ai trouvées, que j'ai achetées, sont pas optimales, tu vois, pour le remplissage et surtout pour le nettoyage. Donc,
ça dépend des enfants. Moi, il adore les fruits crus, donc c'est vrai que bien. Là-dessus, bah, tu t'emmènes une pomme et des gâteaux et puis c'est bon.
C'est quoi,
trop tu bien. Peux faire un... Tu peux partir en balade comme ça. Bon, et qu'est-ce que, par contre, tu as réussi à mettre en place mais que tu n'avais pas prévu ?
Bah, je te dis, pas d'écran, parce que même si je voulais rester ferme sur la position, je ne pensais pas qu'à 3 ans et 4 mois, il n'aurait toujours pas vu le début d'un dessin animé. Et c'est de plus en plus difficile, et je pense que ça ne sera pas aussi facile avec ma fille. Surtout quand tu vas chez les gens, en fait. Tu vois, ça nous arrive d'aller chez des potes le dimanche, et qui ont des enfants de l'âge de mon fils, ou plus petits même. Et les parents les mettent devant un écran et je les juge pas, encore une fois, parce que chacun fait bien comme il veut et comme il peut. Simplement, moi, j'ai pas envie d'exposer mon fils à un écran, donc c'est compliqué quand t'es dans une situation comme ça, où tu vois, avec des cousins qui sont de passage chez la grand-mère ici à Toulon. C'est compliqué de pas avoir l'air, enfin, d'une manière générale, et ça, tu vois, je pense que c'est ce que t'avais commencé à évoquer tout à l'heure. Comment tu fais pour ne pas avoir l'air de donner des leçons et d'être dans l'injonction et dans le casse-couite, la casse-couite rose, plus, tout en défendant tes attentes et tes valeurs, quoi. On en parlera après sur, notamment, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait, le gap entre nos attentes et la réalité. Moi, à la crèche et à l'école, quand j'ai posé la question de la provenance des aliments sur notamment les fruits et légumes, les primeurs, j'ai demandé est-ce que c'était de saison, est-ce que c'était bio. Ils m'ont regardé, surtout à l'école, le chef cuisinier, aux portes ouvertes, il m'a regardé d'un air de dire... Ah la vache, ok, encore une casse-couille.
Encore une bobo.
Encore une bobo. Heureusement que je lui ai pas dit que je venais de Paris, parce que là, je pense que j'aurais décroché la timbale. Mais c'est compliqué parce que moi, je m'en fous un peu du regard des autres. Tu vois, j'ai mes convictions et je pense que je les impose pas. Donc, tant que je les impose pas et que je donne pas de leçons, je pense que je dérange pas trop. Après, c'est sûr que ce qui est hyper difficile, c'est quand t'as des attentes et que tu te confrontes à la réalité du terrain et à la collectivité. Et très clairement, moi, c'est pas des légumes de saison. Alors, je sais qu'ils font des efforts, tu vois, mais en collectivité, c'est quand même un peu difficile. Donc, voilà, moi, quand on me dit que mon fils a mangé une tomate, là, au mois de janvier, il va pas en mourir, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est même pour lui, en fait, pour avoir les clés, pour savoir qu'il y a des saisons, que tous les fruits et légumes poussent pas à la même saison. Je trouve ça hyper dommage et je trouve que c'est compliqué. Comment tu fais, toi, pour... T'as posé la question à la crèche ?
Non, parce que vers la fin, en fait, il a fait un an chez une assistante maternelle. Et après, il était en crèche. Donc, il est arrivé en crèche, il avait 18 mois. Et déjà, sur la fin, parce qu'au début, c'était moi qui faisais les repas, donc chez l'assistante maternelle, donc la question ne se pose pas. Vers la fin, j'avais lâché, parce qu'en plus, il a mis longtemps à manger des morceaux. Je lui ai dit, du coup, faites-lui les repas. Quand elle m'a envoyé la photo de ce qu'il mangeait, j'étais là, ok, ils sont où les légumes ? Genre pâte aux légumes, tu sais, c'était les pâtes trois couleurs.
Ah oui, d'accord, ça c'est du... Okay.
Ouais. Donc tu te dis d'accord, bon c'est pas grave, au moins ça le sociabilisait parce qu'il mangeait comme tous les autres enfants et tout, donc si tu veux, là-dessus elle m'avait... Et en fait au contraire, en arrivant à la crèche, j'ai eu des bonnes surprises parce que c'est des légumes bio qui sont relativement de saison, parce que à chaque fois je regarde les fruits aussi. Ouais. À chaque fois que je regarde, ils ont qu'un seul gâteau par semaine et 5 gâteaux maison.
Nous aussi, parce qu'en fait, c'est une crèche municipale, toi aussi.
Ouais.
Donc, c'est sur toute l'agglomération colonnaise, donc pareil.
Donc, sur vachement, la crèche, c'est top. Ouais, vachement bien. Sinon, c'est pain au chocolat, pain fruits, yaourt. Mais je suis passée pour une chiante auprès de ma famille. Parce que typiquement, ma mère qui lui file des glaces Magnum. Et après, elle te le rend, il est tout excité. Elle dit, je comprends pas, il a bu du sirop et une glace Magnum à un an et demi.
Ah oui, c'est étonnant.
Voilà, donc t'as beau te dire c'est l'exception, c'est machin. Mais alors oui, c'est sûr, c'est l'exception, c'est rigolo. On a mangé une glace Magnum avec mamie. Tu sais qu'à
déjà,
la maison,
c'est pas mamie qui gère le soir.
Voilà,
donc,
c'est ça. Donc,
merci mamie.
Ouais. Ben, en fait, étonnamment, il y a beaucoup de choses où je suis hyper relax par rapport à comment j'étais avant. Je pense j'ai eu un gros lâcher prise sur beaucoup de choses. En mode, en fait, si ça m'enlève de la charge mentale, c'est ok. Parce que je pense qu'on pourra pas tout gérer, comme tu disais, la collectivité, la cantine, etc. Pour l'instant, typiquement, comme on avait dit, zoo, cirque, c'est Noé. Je me doute bien que dans toute sa vie d'enfant, il ira au moins une fois un zoo, un cirque. Mais à la rigueur, c'est plus en mode, lui, il le décide. Pour l'instant, il y a 3 ans.
Oui, il sait pas ce que c'est, de toute façon. Non. Donc, moi, je suis d'accord. Mais de toute façon, je suis assez en phase avec ce que tu dis sur le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux pas tout contrôler. Et nous, tu vois, typiquement à l'école, il faut amener des gâteaux. Pour les anniversaires, ils proposent d'amener des gâteaux. Tu es obligé d'amener un gâteau industriel. Apparemment, c'est depuis le Covid, couplé, aux allergies potentielles des enfants. Donc, dans un gâteau industriel, tu minimises les risques d'allergie. Soit, moi, j'avoue que ça me saoule parce que... ça m'arrive de leur en donner, hein. Je ne fais pas tous mes goûters maison, loin s'en faut. Mais déjà, j'essaye d'acheter des biscuits un minimum équilibrés, etc. Ouais. Oui, ça peut exister, même si ça a l'air un peu antinomique. À un moment, tu dis quoi ? C'est quoi l'idée ? Il ne va pas fêter l'anniversaire de ses petits potes parce qu'il y a un gâteau industriel et que je m'y oppose ? C'est pas possible, en fait, tu vois. Donc, c'est le lâcher prise. Je pense qu'à un moment, lâcher prise, ça ne veut pas dire partir en sucette sur tout. Ça veut juste dire ouvrir un tout petit peu les vannes et se dire qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il mange une part de gâteau indus dégueulasse que ça va le rendre malade ou que ça va lui donner des mauvaises habitudes ou que ça va le rendre obèse.
Ouais, et puis c'est hors santé. C'est par rapport aussi à l'industriel, aux déchets que ça peut générer. Mais bon.
Non, mais tu te rends malade, en fait, si tu veux.
Ouais, j'ai été dans l'excès... avant d'être mère, sur le zéro déchet, sur ce qu'on pouvait mettre dans le corps. Je pense que c'était aussi beaucoup lié à la PMA. Je m'en suis rendue chèvre, en fait. Quand tu passes, mais sans mentir, un quart d'heure dans un rayon à te dire c'est quoi le meilleur choix entre les amandes en vrac, sauf qu'elles viennent de Turquie, les amandes emballées, elles viennent d'Italie, c'est quand même plus local. Est-ce que je fais ma purée d'amandes moi-même ou est-ce que je les achète et est-ce que je l'achète toute prête ? Est-ce que des fois tu te rends à me rendre folle pour des trucs ? Plus tu mets la question du prix au milieu forcément. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses à gérer. Les petits gestes sont ultra importants parce que je pense qu'ils sont le moteur de beaucoup de choses et des points de bascule. Ils peuvent être des points de bascule sur beaucoup de choses, mais il y a aussi des trucs où à un moment, ta santé mentale. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà. Et puis comme les enfants te prennent beaucoup d'énergie.
Et ton fils, justement, par rapport à tout ça, est-ce qu'il commence à avoir une conscience écologique ? Est-ce que toi, tu lui inculques des bases ? Comment ça se passe au quotidien ?
On essaye par rapport aux livres. Je pense que le choix de ce qu'on lui montre, notamment dans les livres, dans les jouets aussi, pas que pour la planète, pour l'acceptation. Moi, je suis quand même féministe, donc il y a des choses... Il y a certains livres, en fait, ça passe pas.
T'es arrivée au compte ? J'en peux plus.
Non, pas encore.
C'est génial.
Mais certains...
Le petit chaperon rouge qui est vraiment très mignon. Très bien. Écoute, je pense que c'est pas là sa seule qualité, espérons.
C'est ça. Alors maintenant, t'as plein de bouquins où sur le, on en parlait en off sur le consentement et Choupi, enfin Choupi version dessin animé, parce que Choupi livre, ça passe encore. Oui, donc je pense que le contenu, c'est hyper important ce qu'on peut leur proposer. Après, bah, s'ils tombent malgré tout sur un contenu, c'est questionné. Je suis persuadée que même s'ils ont que 3 ans, tu peux en parler avec certains mots. Bon, après, clairement, quand je dis d'arrêter de cueillir les fleurs, ça rentre par une oreille, ça passe par une autre. Hein. Mais du coup, je pense qu'à cet âge-là, d'autant plus, c'est les gestes. En fait, c'est les actes. C'est quand ils me voient... nourrir...
Mais c'est du mimétisme, voilà. C'est clair.
C'est quand ils me voient nourrir le compost et jeter les épluchures dans le compost plutôt qu'à la poubelle. C'est quand ils me voient marcher ou prendre le vélo. C'est quand ils voient qu'on prend des sacs en tissu pour aller au marché. Bah, c'est quand aussi on s'arrête et qu'on parle à un sans-abri, qu'on lui donne une pièce, qu'on lui donne un peu de notre temps. La dernière fois, il a fait un câlin à une dame dans la rue spontanément. Quoi. Donc, et elle lui a dit « t'as refait ma journée, en fait ». C'était adorable, c'était pur. C'est comment on est au quotidien. Et en fait, c'est comme les bases de la politesse. Hein.
Ouais,
c'est vraiment leur montrer le bon exemple. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais leur montrer...
Est-ce qu'on parle des cris, du coup ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trop livré sur le fait qu'on hurle sur
qu'on
nos
s'énerve.
Enfants.
Et alors moi j'ai un problème aussi avec la grossièreté.
Ah ouais,
pas sur lui, mais bah, typiquement mais mon compagnon, hein, c'est le sud, hein, je pense que le problème c'est qu'on a un peu, c'est une ponctuation en fait, hein, du coup on s'en rend pas compte, mais on a un langage un peu fleuri. Des fois le chien, je lui dis TG quand il aboie trop fort, et du coup mon fils se répète, donc je lui dis bah oui, le chien a une gueule, c'est pas une bouche, c'est une gueule, enfin, tu te rattrapes aux branches.
Ah,
comme
c'est
tu
clair.
Peux crier, je pense que ça va aussi beaucoup avec... En fait, tout est lié. Dans ma tête, tout est lié, que ça soit l'écologie, un quotidien plus responsable, mais aussi, on te parle beaucoup de minimalisme et de ralentir. Tu le vois, hein, dans les pays typiquement de l'Europe du Nord, Amsterdam et tout, où ils sont vachement plus avancés sur l'écologie, ils ont aussi beaucoup plus de mi-temps, parce que les niveaux de vie le permettent, parce que, enfin, d'ailleurs, c'est aux Pays-Bas aussi que pendant un an, tu peux garder ton enfant, enfin, tu dois garder ton enfant chez toi. Hein. Je pense qu'on est dans une société où nos quotidiens sont à 100 à l'heure, nous, les mères, on nous demande de travailler sans être mère et d'être mère sans travailler, en fait. On est stressé.
On va relancer le débat que j'avais lancé en story il y a quelques semaines. Hein. Globalement, il n'y a pas de place pour l'enfant dans la société, particulièrement en France. Et très clairement, c'est quelque chose... quand on prend conscience, je trouve que c'est assez violent, en fait. Parce que, et encore, là, on est dans une ville qui est globalement plus ouverte que Paris. Hein. Typiquement, il y a quand même plus d'espace, donc plus de place de fête pour les enfants ici à Toulon. Tu vois, moi, je vois à Paris, c'est effrayant, quoi. Il y a pas... Alors, toutes mes copines ne seront pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'à un moment, il y a aussi la manière dont toi, tu envisages les choses, tu vois. Moi, je ne demande pas à ce que mon fils ait une salle de jeu dédiée. Je veux juste qu'il y ait un espace de change propre et dédié, ce qui n'est pas le cas dans 90% des endroits, il puisse... faire un peu de bruit sans que ça gêne autrui, qui est quelque chose qui soit adapté un minimum pour lui sur la carte. Et ça ne me semble pas des attentes démesurées, mais apparemment, c'est trop. Donc, on est quand même dans un pays où l'enfant dérange, l'enfant prend trop de place, on ne le laisse pas être un enfant. Et finalement, on ne le laisse pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, je trouve qu'il y a un paradigme, une évolution du paradigme sur l'éducation, où en fait, nous, notre génération, en tout cas la mienne, parce que tu es plus jeune que moi, en gros, c'était ne pas montrer ses émotions, tu vois.
Ouais.
Moi, j'étais l'aînée, il fallait que je montre l'exemple, que je sois raisonnable. On m'avait prédestiné une petite case,
oh,
tu vois.
Tu sais, j'ai eu la même...
T'es pas très loin non plus.
Oui, l'enfant modèle, le machin, oui.
Alors, je trouve que c'est hyper important et ça va te perdre, en fait, avec la place que tu laisses à l'enfant. Pour moi, il faut le laisser être un enfant. L'entrée à la petite section, en petite section de mon fils, c'est mal passé parce qu'il était trop jeune, il n'avait pas encore 3 ans révolus, etc. Mais aussi parce que moi, mon constat, c'est qu'on ne le laisse pas être un enfant. C'est-à-dire quand on lui dit « tais-toi, fais pas de bruit, assieds-toi là et écoute », il a 2 ans et demi, donc je trouve ça très bien, hein, d'essayer de lui montrer que ça se passe comme ça et faire grandir, en fait, tout simplement. C'est important de lui donner, tu vois, encore une fois, des guides, d'être un peu le tuteur, entre guillemets, donc c'est super. Mais tu vois, tu peux pas attendre d'un enfant de 2 ans et demi qui reste bien sagement 3 heures d'affilée, les jambes croisées, et en attendant que ça se passe, quoi. C'est pas vrai, pour moi, on les laisse pas assez des enfants dans tous les aspects de la société aujourd'hui, quoi.
Je pense que tu vois, le lien dans tout ça, c'est la domination. À la fois, c'est Cyril Dion dans un épisode de Folie Douce, le podcast de Laurent Bastide, qui dit clairement que, en fait, l'enfance, ce qu'on inculque à nos enfants, c'est le lit de tout. c'est le lit de la société patriarcale, sexiste, raciste. C'est la domination de l'adulte sur l'enfant. C'est vraiment le lit de tout. De toute façon, quand tu commences à être réveillé à l'écologie, tu t'éveilles à tout. Et je pense que la maternité nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Je pense que tu tiraillais à la fois à cet éveil-là et à essayer de déconstruire ça. Et les schémas dans lesquels nous, on a grandi, et typiquement, quand on crie, c'est quand on veut dominer, en fait, notre enfant. Alors oui, il y a derrière, on est stressé, on est fatigué, et en fait, ça reprend le dessus. Quand je vais récupérer mon fils à la crèche, si j'ai eu le temps, dans ma journée, de prendre un petit moment pour moi, c'est un game changer. Je suis complètement différente le soir que si, par contre, j'ai une journée stressée, si j'ai un client qui m'a pris la tête, que ça a été compliqué ou que ce soit... Et je le vois. Et en fait, quand tu cries, c'est que ça t'échappe et que t'essayes de, et que tu t'es fatigué, t'es stressé et t'essayes de reprendre le contrôle. En fait, c'était vieux schéma. Même si ma mère a essayé de faire les choses différemment, tu reproduis et puis tu te questionnes parce que tu te dis, moi, j'essaye de faire ça différemment. Et t'as les vieilles générations qui te disent, oui, mais nous, on a toujours fait comme ça. Vous n'êtes pas mort,
Mais tu sais qu'il y en a encore. C'est hyper intéressant. Je laissais un message sur un post Instagram la dernière fois. Donc, c'était une vidéo assez marrante, en fait, où il y avait une soirée et puis t'avais un couple de jeunes parents qui arrivaient, tu vois, en mode, hey, salut, on vient avec notre fils. Mais alors, faut pas faire de bruit. On pensait le mettre dans la chambre d'amis. Ouais. Et t'as, en fait, le gars qui reçoit qui dit, mais dégagez, en fait, vous saoulez avec votre enfant. Ici, on est là pour faire la fête. On n'est pas là pour. Je trouve ça très marrant, tu vois. Sauf qu'après, tu lis deux, trois commentaires et il y en avait, tu vois, dans l'eau qui disaient, mais c'est clair, les parents qui veulent... nous, on faisait tout avec nos parents, ils fumaient à côté de nous, on faisait la teuf, machin. Et en fait, ça m'a fait péter une pile, tu vois. Donc, le truc qu'il ne faut pas faire, évidemment, parce que ça ne sert à rien. Mais j'ai répondu.
Surtout sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, ça ne sert à rien, je le sais depuis 2005, tu vois, mais ce n'est pas grave, j'y vais quand même. J'ai pas pu m'empêcher de laisser un commentaire, tu vois, en disant, bah, c'est clair, et même une petite baffe de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, lol, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment, tu te dis, c'est difficile hein, de sortir, effectivement, du conditionnement dans lequel tu as été abreuvé, ou en tout cas élevé pendant des années, mais c'est nécessaire, quoi, en même temps, de déconstruire. Et là, on parle de déconstruction d'éducation, mais en vrai, on parle de déconstruction de la société et du patriarcat et de tout ça, parce que moi aussi, je suis féministe. Je trouve que c'est pas évident de s'affranchir de tout ça et d'arriver à une vision plus juste et plus clair de ce que tu veux, quant à, par ailleurs, effectivement, la fatigue, le quotidien, le boulot, les emmerdes qui peuvent te rattraper, quoi.
Puis tous les stéréotypes qui te reviennent. Tu vois cette scène dans Nos jours heureux où l'éducatrice, elle s'énerve sur le petit parce qu'il est, il est hyper relou, hein, il faut le dire. Il dit non, il dit machin, qu'elle lui dit, je sais plus quoi, t'es le prince
des...
T'es mon pays des emmerdes. Enfin, voilà. Et elle l'insulte, elle lui crie dessus. Quand tu regardes sans filtre, sans lunettes, elle est à mourir de rire, cette scène, et t'es là en mode, mais bien fait, parce que... Et après, tu te dis, quand tu prends du recul, tu te dis, quelle violence pour un enfant de recevoir ça de la part d'un adulte. Alors, peut-être qu'il y a des auditeuristes qui vont se dire, ça va.
Ça va.
Voilà, mais imagine, tu es enfant, t'as l'adulte qui se déverse sur toi comme ça.
Bon, après, précisons que l'enfant, là, il a quand même 12-13 ans, je crois, non ?
Oui, oui, oui. C'est pas, puis, il a bien poussé à bout. Hein. Oui, oui,
il est vraiment casse-couille.
Oui, oui, c'est pas un tout petit de 3 ans. Mais c'est les imaginaires collectifs aussi qui sont construits autour de ça, en fait. Donc, ouais, c'est beaucoup de choses. Ça fait beaucoup à penser. Donc, bah, oui, des fonds gris, on n'est pas parfait. Essayer de se rattraper et puis de travailler sur les émotions et de travailler... je pense sincèrement que quand tu travailles sur toi, ça en découle sur ton enfant, en fait. Quand j'étais petite, la séparation de mes parents, ma mère m'a emmené voir une psy. La psy a regardé ma mère, elle a dit « Non, mais c'est vous que je veux voir en consultation. » C'est des trucs...
Et voilà, c'est clair. Allez, abordons notre dernier chapitre.
Et demain.
Parce que...
Ouais. Quels adultes... Est-ce que tu t'es posé cette question déjà ? Quel adulte aimerais que tes enfants deviennent ? Quelle conscience écologique tu aimerais qu'ils développent ?
Je me suis surtout posé la question de la déconstruction du genre, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis très alignée. Enfin, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on détermine mon fils comme étant un garçon et ma fille comme étant une fille. Je veux juste que mon fils soit élevé dans une éducation féministe, en fait. Je veux qu'il apprenne, en fait, à considérer toutes les femmes comme son égale. Là encore, c'est une déconstruction parce que même si tu es féministe, même si tu sais à peu près où tu veux aller, tu te rends compte que tout dans ce qu'on a vécu et tout dans ce qu'on vit encore aujourd'hui est encore très teinté du patriarcat et du paternalisme. Mmh. J'ai un super podcast aussi que j'arrête pas de recommander. Je pense que les gens vont être saoulés au bout d'un moment. C'est Comment j'ai retrouvé ma mère.
Je l'ai écouté grâce à toi.
Ah, c'est vrai ?
Il est exceptionnel.
Il est ouf.
J'ai adoré.
Il est dingue. Ouais. Est-ce que t'as... Enfin, tu vois, franchement, vous qui nous écoutez, si vous êtes encore là après une heure de discussion, foncez. C'est en 9 épisodes. Et en fait, c'est par Axel Média, Axel Magazine, qui est un magazine belge. C'est une femme, en fait, qui raconte son parcours. Effectivement, comment elle a renoué sa relation avec sa mère, mais au-delà de ça, elle parle de sa maternité, de sa grossesse, de son accouchement, et puis de comment, en fait, elle est devenue mère dans une société ultra patriarcale. Et en fait, moi, ça m'a fait bondir, mais je te jure, je sais pas si t'as fait comme moi, je prenais des notes absolument toutes les 2 secondes en mode, mais oui, mais c'est tellement ça, mais bien sûr, tu vois, que vraiment, je l'encourage et je le recommande à tout le monde. Donc, c'est plus là-dessus que j'ai des attentes. Parce que je pense que malheureusement, sans vouloir encore une fois péter l'ambiance, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix en fait que d'être responsables écologiquement et environnementalement parlant, parce qu'il y a une réalité qui nous rattrape, hein, qui est quand même le réchauffement climatique, le changement climatique. À l'horizon même 2030, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a déjà des changements majeurs qui vont intervenir. Donc là, on parle quand même de 2050 et plus. Donc, enfin. Espérons pour eux déjà et puis pour la planète. Mais ouais, donc je pense que ce serait difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas avoir de conscience écologique pour nos enfants, en réalité. C'est plus ça. Même s'il y a encore un chemin énorme à parcourir, parce que tu vois, je fais partie de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'école de mon fils. Mm-hmm. Donc, on organise plein de choses tout au long de l'année pour les enfants. Et notamment, tu vois, on a distribué la tradition du Sud, le blé de la Sainte-Barbe. Et ben, je me suis sentie hyper seule, en fait, parce qu'il fallait faire des petits sachets de blé, que donc, il faut des petits sachets en plastique. Donc, déjà, de base, tu fais « Ouais, ok, les gars, il y a peut-être autre chose ». Et que bah on s'est trouvé à court de sachets et que donc bah tout le monde te sort du Temu, du Amazon pour recevoir le truc parce que c'est moins cher. Et là tu leur dis, alors toi déjà t'es la casse-couille de service. Encore une fois je m'en fous, je mets les pieds dans le plat, j'y vais, je dis juste bah qu'il y a peut-être d'autres moyens, que ici on est quand même dans une grosse agglomération, qu'on a peut-être des papeteries qui peuvent nous dépanner, que peut-être déjà on peut envisager des sachets en papier, pas forcément
peut-être
en plastique.
Que chaque parent amène un contenant,
enfin tu vois, bon bref.
Parce que excuse-moi les petits, enfin tout le monde a des petits pots en verre vides.
Ouais, le problème étant que je pense que il y en a qui le prennent pour distribuer chez les commerçants aussi.
Oui, c'est possible.
Et donc là ça... Ouais. Mais bon, encore une fois, un pochon en tissu, je ne sais rien. Tu vois, il y a peut-être des solutions alternatives. Toujours est-il que je pense que les 15 autres personnes m'ont regardé en mode « Ok, d'accord, celle-là va encore nous sortir » et qu'en gros, ça n'a pas fait mouche. Ou là, tu vois, j'essaye de faire une fresque du climat, d'organiser ça à l'école pour les enfants et pour les parents. Donc, ça fait, je pense... depuis septembre que j'en parle, je fais partie du comité conférence, et donc c'est mon job, hein, c'est de proposer des ateliers. Donc moi, l'atelier que j'ai proposé, c'est donc cette fresque sur le climat. Eh bien, nous sommes en mars, et j'ai toujours pas l'aval de la direction pour organiser une fresque du climat. Je vais continuer, hein, parce que c'est une forme de militantisme aussi, et que j'y tiens, et que pour avoir fait la fresque en septembre, tu vois, très récemment, ça a été une telle gifle et une prise de conscience supplémentaire, tu vois, que j'ai envie de transmettre ça. Je trouve que c'est hyper important, c'est vraiment chouette. Tu te heurtes quand même à beaucoup de personnes réfractaires qui veulent pas voir ou qui peuvent pas voir.
Ou qui pensent que la technologie va nous sauver.
Voilà, exactement. Et donc, oui, nos enfants, je pense, pour répondre à la question après cette digression de l'espace, n'auront pas le choix. Et à la fois, peut-être que si.
Oui, on peut pas savoir de quoi est fait l'avenir, mais du coup, il y a une... question qui me brûle les lèvres, parce que tout à l'heure, tu parlais de féminisme. Est-ce que tu penses que tu réagis différemment avec ton fille, avec ton fils ?
Je vais y arriver.
Avec ton mix. Fils et ta fille.
Par rapport au quotidien, tu veux dire, dans toutes les situations du quotidien ou...
Parce que moi, tu vois, je me questionne régulièrement. Je me dis, s'il était né fille, même si il fera bien ce qu'il veut plus tard, est-ce que je réagirais, tu vois, par rapport au consentement, quand il ne veut pas laisser sa place dans le toboggan ? Est-ce que je réagirais pareil ? Est-ce que, tu vois, ou quand il tombe
Moi, je pense que je réagis pareil, même si je dis à ma fille qu'elle est belle et ça me saoule. Je dis « Ah, qu'est-ce que t'es mignonne, t'es trop belle, machin. » Et mon fils aussi, je lui dis qu'il est beau, mais je vais plus avoir tendance à lui dire qu'il est fort, tu vois. Donc, je fais hyper gaffe à ça. Ça m'énerve beaucoup. Après, sur l'éducation au quotidien, je ne pense pas faire de différence, d'autant moins que mon fils est introvertie et que ma fille est plus extravertie, va plus vers les autres, etc. Donc, ils n'ont pas du tout le même caractère. Et je trouve ça marrant que, tu vois, justement, la petite fille ne tient pas sa place, entre guillemets, tu vois, avec 1000 guillemets de petite fille bien poli, bien dans le rang, versus le petit garçon un peu cabotin, un peu garçon, quoi. Donc c'est peut-être plus facile parce qu'ils ont des caractères différents et plutôt inversés, entre guillemets, par rapport aux stéréotypes de genre.
Ouais,
ce qui est sûr, c'est que j'essaye de lui apprendre à lui aussi le consentement, autant qu'à ma fille. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Moi, ma mère, ça l'a fait, mais hurler. Il y a plein de trucs. Moi, je leur demande avant de les embrasser, tu vois. Je lui dis, alors, est-ce que je peux te faire un petit bisou, tu vois. Et mon fils, parfois, pour m'emmerder, tu vois, il me dit non. Et c'est horrible parce que je suis là, genre, non, j'ai pas envie, je peux juste te faire un bisou, quoi. Mais je respecte vachement parce que c'est vrai, comment tu veux leur inculquer qu'après, ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de refuser, tu vois, si tu les forces à faire une bise, quoi. C'est vraiment un truc. J'ai pas l'impression. Je sais pas si toi, du coup, pour ton fils, tu sciemment, tu mets en place des. Tu vois.
Ouais, moi, sur le consentement, je lui colle un peu la pression. Je pense que je suis vachement. Je pense que s'il était né fille, je serais moins sur son dos.
Ouais.
Je serais plus dans l'empowerment, tu vois. Et là, des fois, j'ai l'impression. D'une fois, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, est-ce que. Après, moi, je suis très, très torturée à me poser beaucoup de questions. Des fois, je me dis, est-ce que je le briderais pas sur certaines choses? Tu vois, en mode, ne sois pas trop un garçon blanc, mâle, dominant, tu vois. Donc, bref, après, je me fais confiance. C'est un enfant qui a beaucoup d'empathie et de sensibilité. Et là, je me dis plutôt, au lieu de brider, essaye de cultiver les bons côtés, son empathie aux animaux, vivants, aux gens. Mais ouais, c'est pas un long fleuve tranquille.
Mais c'est surtout que ça te remet toujours face à tes contradictions, à ton éducation, à l'éducation que t'as reçue. En plus, ça te met en opposition. Moi, tu vois, je sais que ma mère, au bout d'un moment, ça peut la rendre susceptible et un peu agressive, tu vois, ce que je comprends. Parce qu'en fait, elle a fait comme elle a pu aussi, et sans mauvaise pensée, sans penser faire mal ou pas, d'ailleurs, tu vois. Mais du coup, c'est compliqué parce que t'es quand même un peu en opposition. Et c'est pour ça que comment j'ai retrouvé ma mère, la fille qui en remet une couche. Non, super podcast, vraiment.
Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment... En fait, c'est comment j'ai renoué avec ma mère, comment j'ai compris ma mère. Et c'est, c'est hyper touchant.
Et concrètement, toi, ça te poserait un problème si ton fils n'était pas intéressé ou n'était pas engagé, intéressé par l'écologie ou engagé?
Je pense que ce qui me ferait mal, c'est si mon fils devient un gros macho.
Ouais, c'est clair.
Là, ça serait compliqué à vivre. Après, l'écologie, je suis lucide et je pense que c'est très possible qu'à l'adolescence, il fasse l'inverse, limite un rétropédalage en mode, tu sais, opposition. C'est pour ça que je me dis qu'y aller tranquille, c'est bien aussi. Parce que j'ai eu des exemples de personnes que je connais où les parents étaient, pour l'époque en plus, c'était hyper alternatif, hyper engagés. Et eux, à la fin, ils en ont eu marre et ils ont fait complètement l'inverse, quoi. Après, oui, mais je pense que, comme tu dis, je pense qu'ils n'auront pas le choix, au bout d'un moment, de le faire. Parce que je ne compte pas trop sur le gouvernement pour mettre des trucs en place bien, hein, voilà. On verra. Je pense que moi, j'avance à court et moyen terme.
De toute façon, je pense que ça ne sert à rien de penser trop loin.
Non.
Ce serait plutôt antinomique, quoi.
Ouais.
Ouais, moi, je suis un peu comme toi. Je pense qu'ils agissent, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par mimétisme. Donc, déjà, leur montrer la voie, essayer de leur... tu vois, moi, en ce moment, mon sujet, c'est faire couler l'eau, quoi. Quand mon fils se lave les mains, mais ça dure 3 plombes. Il ne comprend pas qu'il faut couper l'eau entre deux lavages. Donc, à chaque fois, j'essaye de lui expliquer que l'eau, c'est un bien rare et précieux, etc., etc. Et ça a du mal à rentrer, hein. Vraiment, c'est limite conflictuel, parce que moi, ça me stresse de voir toute cette eau couler, tu sais. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais voilà, donc oui, c'est sûr que ça heurtera mes convictions et que... mais je te dirais que l'opposition va pas s'arrêter là avec nos enfants, quoi. Donc,
non, c'est sûr.
Ça sera une opposition comme une autre et à nous de les accompagner aussi sur ce chemin-là et de respecter un autre chemin si c'est celui qu'ils veulent choisir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien, on peut peut-être essayer de s'y préparer maintenant, ça nous donnera un peu de latitude. On sera prête pour la suite.
Ouais, voilà, et puis trouver aussi des ressources. Je pense que les livres aident beaucoup et trouver des ressources aussi pour les préparer doucement parce que j'ai vu plein de fois sur les réseaux sociaux des gamins collège, primaire qui ressortaient complètement alarmés de cours sur l'écologie, en fait.
Genre ils découvrent le poteau rose, quoi.
Ouais, peur et tétanisé, en fait. Et t'as pas envie que ton enfant y vive ça, donc...
En fait, tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est que je trouve que d'une manière générale, on voit l'écologie comme quelque chose de contraignant et comme quelque chose de pénible. Alors qu'en fait, c'est un changement qui peut être éminemment positif et que sortir d'un paradigme, c'est pas forcément adopter quelque chose d'horrible, quoi.
Ouais.
Et je pense qu'on a besoin de nouveaux récits. Et À mon humble avis, on est en train de créer ces nouveaux récits, tu vois, collectifs, parce que déjà on en a besoin, et ensuite parce qu'il y a une urgence qui se profile et que il faut qu'on prenne conscience du fait qu'on n'a pas le choix, mais que finalement ça peut être une bonne chose de ne pas avoir le choix, de sortir d'un système existant. J'ai bon espoir, mais ça c'est mon côté désespérément positif et optimiste. J'ai bon espoir que tu vois, quand ils avanceront un peu dans l'âge et que ne serait-ce que quand ils seront ados, ces récits-là seront déjà un peu ancrés et que il y aura des imaginaires largement positif autour, tu vois, de l'engagement écologique et planétaire. Donc, ça me rend pas forcément défaitiste, tu vois. Je me dis, au contraire, oui, tout n'est pas gagné. À l'instant T, il reste tellement de choses à faire que ça paraît vertigineux, voire désespéré. Mais j'ai bon espoir que d'ici à quelques années, on arrive déjà à ancrer dans l'imaginaire collectif un récit un peu plus positif par rapport au changement qui doit se produire, en fait. On n'a pas le choix.
Je pense que la parentalité, c'en est un super moteur.
Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu deviens parent, tu n'as plus que toi à gérer, quoi.
Ouais.
Donc, toi, en vrai, tu t'en fiches, finalement. C'est vraiment... Tu fais ton maximum pour que tes enfants soient le plus heureux possible et grandissent du mieux qu'ils puissent, quoi, qu'ils peuvent. Donc,
Non, mais ça change un truc. Tu le vois, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont changé de carrière professionnelle pour quelque chose de plus aligné, qui ont une prise de conscience écologique au monde de devenir parent. Souvent, tu as des portes d'entrée, ben, style, on en parlait au début de l'épisode, hein, les cosmétiques que tu vas appliquer à ton bébé ou pendant la grossesse ou ce que tu vas manger. Et après, ben, tu tires le fil, tu détricotes la pelote, tu fais un peu toute l'écologie du quotidien. Et puis, quand tu as fait le tour, eh ben, tu lis et du coup, tu comprends tous les rapports de domination avec le végétarisme, le sexisme, le racisme, etc. Et puis, ça va de plus en plus loin et... voilà. Alors bien sûr, c'est pas une porte d'entrée pour tout le monde, mais je l'observe sur beaucoup, en tout cas.
Ouais, je suis bien d'accord. Merci Pauline pour cet échange.
Merci à toi.
Trop bien. J'espère que vous qui nous écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, ouvert éventuellement des perspectives. Si vous voulez partager avec nous votre vision d'une parentalité, comment on pourrait dire? Éclairé,
ouais,
genre on donne la voix, tu sais, le melon des meufs. Non, mais comment vous envisagez en fait votre parentalité par rapport à ces sujets éco-responsables. Je pense que ça peut être intéressant de partager votre vision avec nous.
Voilà,
à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @lananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pouce.